En 8 de l'ère de la diffusion. Le choix du destin. Cheng Xin se rendit au siège du groupe Halo. C'était la première fois qu'elle venait là. Elle n'avait avant cela jamais pris part à aucune opération du groupe. Inconsciemment, elle avait toujours estimé que cette énorme somme d'argent ne lui appartenait pas et qu'elle n'avait jamais appartenu non plus à Yun Tianming. Ce qu'il possédait, c'était cette étoile. Les richesses offertes par l'étoile resteraient propriété de la compagnie. Mais à présent, le groupe Halo pouvait l'aider à réaliser son rêve. Le siège de la compagnie occupait un arbre entier dont l'architecture gigantesque avait pour particularité d'être entièrement transparente. L'indice de réfraction des matériaux utilisés pour sa construction était proche de celui de l'air. La structure intérieure était donc entièrement visible. On y voyait les employés se déplacer à travers les pièces, suivis par une multitude de fenêtres d'information flottantes. Cet imposant bâtiment suspendu au milieu du ciel ressemblait à une fourmilière translucide peuplée d'insectes grouillants et colorés. Dans la salle de réunion, située au sommet de l'arbre, Cheng Xin rencontra une grande partie des cadres du groupe, tous jeunes, dynamiques et à l'esprit vif. C'était pour la plupart d'entre eux la première fois qu'ils rencontraient Cheng Xin, et ils ne dissimulèrent pas leur respect et leur admiration. Ce n'est qu'à la fin de la réunion, lorsqu'il ne resta plus dans la vaste salle que Cheng Xin et A.A., qu'elles se mirent à parler de l'avenir de la société. Le rapport de Yun Tianming et les interprétations qui en avaient été tirées étaient encore confidentiels, et ce pour s'assurer de la sécurité de Yun Tianming. Les flottes internationales et les Nations Unies distilleraient lentement les résultats des recherches inspirées par le décryptage des informations, en les faisant passer pour des initiatives purement terriennes. Un certain nombre de fausses pistes seraient explorées en parallèle à des fins de camouflage. Cheng Xin s'était habitué au sol transparent sous ses pieds et elle n'avait plus le vertige. Dans le bureau flottaient encore de grandes fenêtres d'information, dont certaines diffusaient des images en temps réel des chantiers de construction du groupe Halo en orbite terrestre. Parmi eux, celui de la gigantesque croix en orbite géosynchrone. Depuis l'apparition de Yun Tianming, le grand public ne se laissait plus bercer par l'illusion d'un miracle à venir, et l'atmosphère religieuse qui s'était emparée du monde s'était à nouveau estompée. L'Église avait freiné ses investissements et le projet de construction de la Grande Croix avait été abandonné. On était justement en train de la démanteler. Seule la branche horizontale avait été bâtie et ce symbole paraissait étrangement plus profond. « Je n'aime pas le projet Champ Noir, » fit A.A. « Autant appeler ça le projet Tombe Noire, une tombe que nous creuserions nous-mêmes. » Cheng Xin observa à travers le sol la ville qui s'étendait sous leurs pieds. « Je ne suis pas de cet avis. À mon époque, la planète Terre était coupée du reste de l'univers, et les gens vivaient tous à sa surface. Nous ne levions que rarement les yeux au ciel pour regarder les étoiles. Et ceux qui nous avaient précédés, encore moins. Les humains ont vécu ainsi pendant 5000 ans. Tu ne peux pas dire que leur vie ne valait rien. » Aujourd'hui encore, le système solaire est séparé de l'univers. Dehors, dans l'espace profond, ne se trouve qu'un petit millier d'humains à bord de 2 vaisseaux. Mais j'ai l'impression que si nous nous coupons des étoiles, nous n'aurons plus aucun rêve. Pourquoi donc? La joie et le bonheur existaient déjà dans les temps anciens, et les rêves n'étaient pas moins nombreux qu'aujourd'hui. Et puis, on pourra toujours voir les étoiles à l'intérieur du champ noir, c'est simplement que... Eh bien... On ne sait pas encore vraiment comment ce sera. Tu sais, moi non plus je n'aime pas le projet Champ Noir. Je le sais bien. J'aime celui des vaisseaux luminiques. Comme nous tous, le groupe Halo doit se lancer dans la construction de vaisseaux pouvant naviguer à la vitesse de la lumière. Je ne pensais pas que tu serais d'accord. Mais cela nécessite de grands investissements dans la recherche fondamentale. Tu me prends pour une simple commerçante ? En un sens, tu as raison. Tout comme le reste des membres du directoire, je cherche le meilleur moyen de maximiser nos profits. Mais ce n'est pas contradictoire avec le développement de la technologie des vaisseaux luminiques. Politiquement, toutes les ressources gouvernementales passeront dans les projets bunkers et champs noirs. Celui des vaisseaux luminiques sera laissé aux compagnies privées. Nous prendrons la part la plus active possible dans le projet Bunker et une partie des bénéfices que nous pourrons en tirer serviront à financer des recherches sur les vaisseaux luminiques. Ah, voici ce que je pense. Je crois que les théories fondamentales qui permettront le développement de la propulsion par courbure et l'établissement d'un champ noir se recouperont. Attendons que le gouvernement et l'Académie mondiale des sciences aient fait un premier effort avant de lancer des investissements dans le domaine de la propulsion par courbure. Entendu. Nous devons cependant dès aujourd'hui fonder une Académie des sciences au sein de notre groupe. Recrutons des scientifiques. Je suis certaine que beaucoup d'entre eux rêveraient de travailler au développement de vaisseaux luminiques. Ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent avec les projets nationaux et internationaux à venir. A.A. fut soudain interrompu par l'apparition d'une multitude de fenêtres de toute taille. C'était comme un déluge de couleurs qui eut au fait de recouvrir toutes les fenêtres diffusant jusqu'à présent l'image des chantiers spatiaux du groupe. Ce phénomène était appelé « avalanche de fenêtres ». Il annonçait généralement qu'un événement important s'était produit. Mais cette abondance brutale d'informations produisait souvent un effet de trop-plein qui ne permettait pas de mesurer la gravité de l'événement en question. C'était la situation dans laquelle se trouvaient Chung Sin et A.A. à cet instant même. Elles voyaient s'afficher un nombre incommensurable de fenêtres saturées de textes complexes et d'images dynamiques. Seules les fenêtres représentant des images simples pouvaient être appréhendées rapidement. Sur l'une d'elles, Chung Sin distingua plusieurs visages levés au ciel, puis l'objectif de la caméra zooma à toute vitesse jusqu'à ce que ne figurent plus sur l'écran que deux grands yeux terrifiés. Chung Sin entendit des hurlements. Une fenêtre venant juste d'apparaître se stabilisa devant toutes les autres et la secrétaire d'A.A. apparut à l'image. Elle fixait les deux femmes d'un visage blême. « C'est une catastrophe! Une attaque !» cria-t-elle. « Est-ce qu'on en sait plus ?» Le premier avant-poste d'observation du dispositif d'alerte du système solaire vient d'être lancé et il a immédiatement détecté l'arrivée d'une particule de lumière. Dans quelle direction? À quelle distance? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que... C'est une alarme officielle? Demanda Chung Sin avec sang-froid. Je n'ai pas l'impression. Mais l'information tourne en boucle dans les médias. C'est que ça doit être vrai. Il faut rejoindre le spatioport et s'enfuir. Vite! Puis, la secrétaire ayant fini de parler, la fenêtre disparut. Chung Sin et A.A. traversèrent la jungle dense de fenêtres d'information et se rendirent jusqu'au mur transparent de la salle de réunion. Elles constatèrent que, plus bas, la panique s'était emparée de la ville. Le nombre de véhicules volants avait massivement augmenté, ce qui provoquait un chaos total dans le trafic. Tandis que les voitures louvoyaient à grande vitesse dans une circulation dense, l'une d'elles percuta une immense structure arboricole et explosa en une boule de feu. Ailleurs dans la ville, on vit apparaître deux autres foyers d'où s'élevaient des colonnes de fumée. A.A. sélectionna quelques fenêtres et les lut avec attention. Chung Sin, elle, essaya de contacter les membres du CRD, mais les lignes étaient presque toutes occupées. Elle ne réussit à joindre que deux d'entre eux. Le premier ignorait tout comme elle ce qui se passait. Le second, un fonctionnaire du Conseil de défense planétaire, lui confirma que l'avant-poste d'observation numéro 1 du dispositif d'alerte du système solaire avait en effet détecté un danger, mais il n'avait aucune information sur sa nature. Il confirma également que ni les flottes internationales ni les Nations Unies n'avaient officiellement lancé l'alarme d'une attaque de la forêt sombre. Mais il n'était pas optimiste. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles l'alarme n'a pas été donnée. La première, c'est que rien ne s'est passé. La seconde, c'est que la particule de lumière est déjà trop près de nous et qu'il ne sert plus à rien de l'enclencher. Grâce à sa lecture, A.A. put obtenir une autre confirmation. La particule de lumière arrivait en longeant le plan de l'écliptique. Quant à sa direction et sa distance actuelle du Soleil, plusieurs informations se contredisaient, et encore davantage au sujet de l'estimation du moment où elle entrerait en contact avec lui. Certains parlaient d'un mois, d'autres de seulement quelques heures. « Montons à bord du halo, » dit A.A. « Avons-nous encore le temps ?» Le halo était un vaisseau marchand appartenant au groupe du même nom. L'appareil stationnait en ce moment dans la base spatiale de la compagnie en orbite géosynchrone. Si le danger était réel, le seul espoir de s'échapper était de s'envoler pour Jupiter et de se réfugier derrière la face cachée de la planète pour échapper à l'explosion du Soleil quand la particule de lumière entrerait en collision avec lui. Jupiter était alors en opposition, comme tous les 400 jours. Un vaisseau comme le Halo pouvait envisager de relier la Terre à Jupiter en 25 ou 30 jours, ce qui correspondait à l'estimation la plus optimiste lue par AA sur les fenêtres d'information de la date de l'explosion du Soleil. Cependant, cette prédiction était peu fiable, car le dispositif d'alerte du système solaire qui venait d'être lancé n'était pas encore en mesure de fournir une prévision aussi longue. « Il faut bien faire quelque chose. On ne peut quand même pas attendre la mort ici !» cria AA. Puis elle agrippa Chung-Sin, et toutes deux traversèrent en courant la grande salle de réunion pour se rendre sur le parking extérieur au sommet de l'arbre où elles s'engouffrèrent dans un véhicule volant. Mais A.A. sembla se souvenir de quelque chose et redescendit, avant de revenir quelques minutes plus tard munie d'une longue boîte ressemblant à un étui à violon. Elle sortit l'objet de l'étui et jeta la boîte à l'extérieur. Chung-Sin reconnut l'objet. Un fusil. Qui ne tirait pas des balles mais des rayons laser. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? L'interrogea Chung-Sin. Le spatioport doit être plein à craquer. Qui sait ce qui peut se passer ? Répondit A.A. en jetant l'arme sur la planche arrière et en démarrant le véhicule. Chaque cité disposait d'un spatioport qui servait principalement de base de lancement pour les navettes spatiales, un peu à la manière des anciens aéroports. Le véhicule rejoignit le flux ininterrompu de voitures qui filaient comme une nuée de sauterelles dans la direction du spatioport. Les voitures projetaient sur le sol une ombre presque liquide, comme si c'était le sang de la ville qui s'écoulait. Devant eux, une dizaine de lignes blanches biffaient le bleu du ciel, les sillages laissés par des appareils spatiaux s'envolant vers l'espace. Au bout d'une certaine distance, ceux-ci bifurquaient vers l'est et disparaissaient dans les profondeurs de la voûte céleste. De nouvelles lignes ne cessaient de s'élever et de s'allonger dans les airs et, à l'extrémité de chacune d'entre elles, rutilait une boule de feu dont la luminosité semblait presque plus forte que le soleil, les flammes des moteurs à fusion nucléaire. Dans une fenêtre d'information de la voiture, Chung-Sin vit une image de l'espace en temps réel prise depuis l'orbite terrestre basse. Elle voyait d'innombrables sillages monter depuis les continents bruns. Ceux-ci se faisaient de plus en plus nombreux et de plus en plus denses. On avait l'impression que des cheveux blancs avaient poussé à la terre, et les petites boules de feu au bout de ces cheveux étaient comme des lucioles s'envolant vers l'espace. C'était la plus grande fuite collective de l'humanité de toute l'histoire. Quand leur véhicule parvint au spatioport, Chung-Sin et A.A. purent voir en dessous d'elle une rangée de véhicules spatiaux, environ une centaine, et, plus loin, d'innombrables autres navettes qui étaient sorties des énormes hangars. Les avions spatiaux n'étaient déjà plus en service depuis longtemps, et toutes les navettes spatiales s'envolaient maintenant verticalement. Contrairement aux capsules spatiales de toute forme que Chung-Sin avait pu observer dans le spatioport du terminal de l'ascenseur spatial, les navettes présentaient ici un profil effilé régulier et comprenaient 3 à 4 empennages. Elles se dressaient de façon désordonnée sur la zone de stationnement, tel un parterre de végétaux en métal. Dans la voiture, A.A. avait demandé au hangar de déplacer l'une des navettes du groupe Halo jusqu'à la zone de stationnement. D'en haut, elle reconnut très vite l'appareil et fit atterrir son véhicule à proximité. Chung-Sin vit que la navette était entourée d'appareils de différentes tailles, certains ne dépassant pas quelques mètres de hauteur et ressemblant à d'énormes obus. Elle avait du mal à imaginer que des véhicules volant de cette taille puissent parvenir à s'arracher à l'attraction terrestre pour entrer dans l'espace. Il se trouvait également de plus grands appareils, dont certains faisaient la taille de vieux avions de ligne. La navette du Halo appartenait à la catégorie des appareils de moyenne dimension. Elle était haute de 10 mètres environ et recouverte d'une surface métallique miroitante qui rappelait celle des gouttelettes. La navette était posée sur les roues de son train d'atterrissage, de sorte qu'elle pouvait à tout moment être tractée par un véhicule de service jusqu'à la plateforme de lancement. Une série de vrombissements leur parvint de la zone de lancement. Étrangement, Chung Sin repensa au mugissement du Maelstrom de Mosken. La terre vibra sous leurs pieds, leur donnant l'impression d'avoir des fourmillements dans les mollets. Une lueur éclatante illumina la zone de lancement et une navette s'éleva dans les airs, traînant derrière elle une queue enflammée. Elle ne tarda pas à disparaître dans le ciel, ajoutant un nouveau sillage à ceux qui s'étiraient déjà vers l'espace. Un épais nuage blanc arriva à leur hauteur, porteur d'une singulière odeur de brûlé. Cette vapeur ne provenait pas du moteur de la navette, mais de l'eau des bassins de refroidissement situés sous la plateforme. Tout fut enveloppé sous cette brume humide et étouffante, renforçant un peu plus l'atmosphère oppressante qui se dégageait du lieu. Au moment où elle s'apprêtait à emprunter l'échelle qui menait à l'intérieur de la navette, Chung Sin aperçut non loin d'elle un groupe d'enfants au milieu de la brume qui commençait à se dissiper. Vêtus d'uniformes scolaires, ils avaient l'air d'écoliers et n'avaient certainement pas plus de 10 ans. Une jeune professeure était avec eux. Sa longue chevelure était balayée par des coups de vent et elle jetait des regards impuissants autour d'elle. « Peut-on encore attendre un peu ?» demanda Chung Sin. Ah-Ah regarda le groupe d'enfants et comprit ce que voulait Chung Sin. « Bien, allons-y. Nous allons de toute façon devoir attendre notre tour avant de décoller. La file est longue. » En principe, les navettes spatiales étaient en mesure de décoller depuis n'importe quelle surface plane, mais pour éviter que le plasma craché par les moteurs à fusion ne provoque des dommages autour de l'appareil, il leur fallait obligatoirement appareiller depuis la plateforme de lancement. Là se trouvait un bassin de refroidissement et des canaux de drainage permettant au plasma de s'écouler dans des espaces sécurisés. En voyant Chung Sin arriver à sa rencontre, la professeure n'attendit pas que celle-ci l'interroge et courut s'agripper à elle. « Est-ce votre navette? Je vous en supplie, sauvez ces enfants !» Sa frange trempée collait à son front et son visage était perlé de larmes et de buées. Elle fixait Chung Sin comme si elle était capable de la retenir rien qu'en la regardant. Les enfants la rejoignirent, projetant leur regard plein d'espoir sur la silhouette de Chung Sin. « Nous devions participer à un camp d'été spatial. Nous étions censés nous rendre en orbite géosynchrone, mais après le déclenchement de l'alarme, ils ne nous ont pas laissés embarquer et en ont fait monter d'autres à notre place. » « Et la navette ?» demanda Ah Ah qui arrivait à son tour. « Elle s'est envolée. Je vous en supplie. »« Prenons-les avec nous, » dit Chung Sin à Ah Ah. Ah Ah fixa Chung Sin quelques secondes. L'expression de son regard était parfaitement claire. « Tu ne pourras pas sauver la terre entière. » Elle finit par secouer la tête, de la détermination dans ses yeux. « Nous n'en prendrons que 3. » « Mais enfin, la navette a une capacité d'une 10aine de passagers. » À vitesse maximale, le Halo ne pourra en embarquer que 5. C'est la limite que permet le système de propagation de mer profonde. Les passagers supplémentaires finiraient comme de la chair à pâté. Cette réponse laissa Chung Sin pantoise. Entrer en état de mer profonde n'était utile que pour des vols interstellaires. Or, elle avait toujours pensé que le Halo était un banal vaisseau interplanétaire. « Bon, d'accord, prenez-en 3 !» concéda la professeure, qui lâcha Chung Sin pour agripper Ah Ah, terrifiée à l'idée de laisser passer cette chance. « Choisissez-en 3 !» dit-elle en désignant les enfants. La professeure relâcha Ah Ah et la regarda d'un air abasourdi, encore plus terrifiée qu'elle ne l'était déjà. « Que je choisisse? Mais mon Dieu, comment voulez-vous ? » Épouvantée, son regard allait de droite à gauche, mais elle n'osait le poser sur les enfants qui attendaient près d'elle. Elle paraissait souffrir le martyr. C'était comme si les yeux des enfants s'apprêtaient à la brûler sur place. « Bien, je vais choisir pour vous, » dit Ah Ah. Puis elle se tourna vers les écoliers, un sourire au coin des lèvres. « Écoutez-moi, les enfants, je vais vous poser 3 questions. Ceux qui donneront la bonne réponse en premier partiront avec nous. » Elle ignora le regard horrifié de Chung Sin et de la professeure et leva l'index. « Première question. Prenons une lampe éteinte. Après 1 minute, la lampe se met à clignoter, puis encore une fois après 1 demi-minute, puis 1 troisième fois après 15 secondes, et ainsi de suite, chaque fois à des intervalles correspondant à la moitié de l'intervalle précédent. Combien de fois aura-t-elle clignoté en 2 minutes ? 100 fois, lâcha un gamin. Aa secoua la tête. Faux. 1000 fois. Non, réfléchissez bien. Il y eut un long silence, puis une voix timide se fit entendre, celle d'une petite fille tranquille, à peine audible dans la cacophonie des bruits alentours.
Un nombre infini de fois.
Toi, viens ici, fit Aa en désignant la petite fille. Elle attendit que celle-ci vienne à sa rencontre pour la placer derrière son dos. Deuxième question. Prenons une corde à l'épaisseur irrégulière. Cette corde met 1 heure pour brûler d'un bout à l'autre. Comment peut-on utiliser cette corde pour chronométrer 15 minutes ? Attention, je vous rappelle que l'épaisseur est irrégulière. Cette fois, aucun enfant ne se précipita pour donner la réponse. Il réfléchissait. Mais bientôt, un garçon leva la main.
On plie la corde en 2 et on l'allume des 2 côtés.
Aa hocha la tête. Viens ici. Puis elle plaça le garçon à côté de la petite fille qui avait donné la première réponse juste.
Troisième question. 82, 50, 26. Quel est le nombre suivant?
Il y eut un long silence.
Aa répéta.
82, 50, 26. Quel est le nombre suivant?
10,
cria une petite fille. Aa leva son pouce.
Bravo, gamine. Allez, viens.
Elle adressa un signe de tête à Chung Sin et emmena les 3 enfants dans la navette sans se retourner une seule fois. Chung Sin les suivit jusqu'à l'échelle. Elle se retourna et vit que les enfants et la professeure autour de laquelle ils étaient rassemblés la regardaient, un peu comme s'ils observaient le soleil se coucher pour la dernière fois. Ses larmes brouillaient son champ de vision. Au moment de grimper sur l'échelle, elle sentait encore les yeux désespérés des enfants dans son dos, comme autant de flèches lui transperçant le cœur. Elle avait déjà connu cette sensation, lors des derniers instants de son éphémère mission de porte-épée, et aussi en Australie, lorsqu'elle avait entendu un Intellectra annoncer le plan d'extermination de l'espèce humaine. Cette souffrance était pire que la mort. La cabine de la navette était spacieuse. 18 sièges étaient répartis en 2 rangées verticales. Comme le long d'un puits, il fallait gravir des marches pour trouver sa place. À l'image de la capsule spatiale, Chung Sin eut l'impression que cet appareil volant était une coquille vide. Elle ignorait même où se trouvaient son moteur et son système de contrôle. Elle repensa aux fusées chimiques de l'air commune, aussi hautes que des gratte-ciel, mais dont une infime partie du sommet pouvait emporter une charge utile. On ne voyait presque aucun équipement de navigation dans cette cabine, seules flottaient quelques fenêtres d'information. Le système d'intelligence artificielle de la navette sembla reconnaître Aa, car quand celle-ci entra, plusieurs fenêtres se massèrent autour d'elle. Les fenêtres continuèrent de la suivre tandis qu'elle aidait les enfants et Chung Sin à sangler leur ceinture de sécurité.
« Ne me regarde pas comme ça. Je leur ai donné une chance. »
C'est une compétition pour la survie, murmura Aa.
Tanti, ils vont tous mourir en bas?
Demanda le garçon.
Chacun de nous va mourir tôt ou tard, répondit Aa.
Puis elle prit place à côté de Chung Sin. Elle n'attacha toutefois pas sa ceinture, se contentant de consulter les fenêtres d'information.
Diable, il reste encore 29 appareils devant nous.
Le spatioport comportait 8 plateformes. Il fallait compter 10 minutes de refroidissement avant de pouvoir réutiliser la plateforme. Entre-temps, il fallait aussi remplir les bassins. Cette attente en elle-même n'impactait guère leurs chances de survie, car le voyage vers Jupiter durerait encore un mois. Si l'attaque survenait d'ici là, la conclusion serait la même sur Terre ou dans l'espace. Néanmoins, le moindre retard diminuait leurs chances de jamais pouvoir s'envoler. Le chaos régnait au sein de la société. Mus par l'instinct de survie, plusieurs dizaines de millions d'habitants de la cité se ruaient vers le spatioport. Les navettes spatiales, tout comme les avions de l'ère commune, ne pouvaient embarquer qu'un petit groupe de personnes dans un temps court, et seuls de rares privilégiés étaient propriétaires de leurs navettes. En une semaine, les capacités des ascenseurs spatiaux ne suffiraient à emporter qu'un centième de la population de la surface en orbite terrestre basse, et un millième seulement serait en mesure d'embarquer pour Jupiter. Il n'y avait pas de hublot dans la cabine, mais quelques fenêtres d'information diffusaient des images en temps réel de l'extérieur, prises depuis divers angles. On pouvait ainsi voir une foule noire en train de se précipiter vers la zone de stationnement. Les gens entouraient chaque navette, criant et agitant les mains de façon hystérique, espérant pouvoir monter à bord de l'une d'entre elles. Au même moment, dans le secteur du spatioport, des voitures ayant atterri quelque temps plus tôt décollaient à nouveau, vidées de leurs passagers. Elles étaient contrôlées à distance par leurs propriétaires afin d'empêcher le lancement des navettes. Les véhicules volants s'aggloméraient dans le ciel, formant au-dessus des plateformes de lancement une barrière noire d'engins suspendus. Bientôt, plus aucun appareil ne pourrait décoller. Cheng Xin réduisit la fenêtre et se retourna pour rassurer les trois enfants assis derrière elle. À cet instant, A.A. s'écria « Mon Dieu !» Quand Cheng Xin se retourna, elle vit qu'une image était zoomée à tel point qu'elle occupait tout l'espace visible. Une langue de feu aveuglante s'élevait au milieu du parterre de navettes. Quelqu'un avait osé procéder au lancement de son engin au milieu de la foule rassemblée sur la zone de stationnement. La température du plasma éjecté par le moteur à fusion était plusieurs dizaines de fois supérieure à celle qui jaillissait dans le passé des moteurs chimiques. Si le lancement était effectué sur une surface plane, le plasma à haute température pouvait instantanément faire fondre n'importe quel revêtement et gicler dans toutes les directions, n'épargnant personne dans les 30 km à la ronde. À l'image, on voyait que plusieurs points noirs s'éparpillaient depuis le lieu où les flammes étaient apparues. L'un des points percuta le sommet d'une navette à proximité et y laissa une empreinte noire, un corps carbonisé. Quelques navettes autour de celle qui avait allumé son moteur s'enflammèrent, peut-être parce que leur train d'atterrissage avait pris feu. La foule cessa aussitôt de s'animer. Tous levèrent la tête et virent que la navette qui venait de brûler à vif des dizaines de personnes s'élevait en vrombissant au-dessus de la zone, laissant derrière elle un sillage blanc avant de bifurquer à l'est. Les témoins semblaient ne pas croire ce qui venait de se passer devant leurs yeux. Il ne s'écoula qu'une dizaine de secondes avant qu'une autre navette s'envole à son tour depuis la zone de stationnement, à une distance encore plus proche que l'instant d'avant. Les bourdonnements, les flammes et les vagues d'air chaud plongèrent la foule ahurie dans une panique absolue. Puis ce fut un troisième appareil, un quatrième. L'une après l'autre, des navettes continuaient à forcer le décollage et dans un terrible brasier qu'elles alimentaient de leurs boules de feu, des corps calcinés giclaient verticalement en l'air comme des fusées de feu d'artifice, transformant la zone de stationnement en un épouvantable crématorium. A.A. observait ces scènes effroyables en se mordant la lèvre inférieure. Elle ferma cette fenêtre et plongea la tête dans une autre en ouvrant l'interface de commande. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Cheng Xin. « Nous décollons. »« Stop ! Mais regarde !» A.A. envoya d'un geste de la main une petite fenêtre à Cheng Xin qui montrait les quelques navettes spatiales alentour. À la queue de chacune d'entre elles, au niveau des tuyères de leur moteur, se trouvaient des anneaux de dissipation thermique utilisés pour refroidir les réacteurs à fusion. Cheng Xin aperçut que sur quelques-uns des appareils, les anneaux émettaient déjà une lueur rouge sombre, ce qui signifiait que les réacteurs étaient enclenchés et les navettes prêtes à appareiller. S'ils s'envolent, nous aussi, dit A.A. Si l'une de ces navettes décollait, Le plasma qui en jaillirait risquait de faire fondre l'ensemble des trains d'atterrissage des appareils voisins, y compris celles du groupe Halo, et de les faire sombrer dans le sol corrodé.
« Hors de question ! Arrête ça !»
La voix de Chung-Sin était calme mais résolue. Elle avait fait l'expérience de catastrophes bien pires, et elle pouvait affronter celle-ci avec sérénité.
« Pourquoi ?»
demanda A.A. sur un ton apaisé.
« Parce qu'il y a des gens autour. »
A.A. cessa de taper sur l'interface et se tourna vers Chung-Sin.
« D'ici peu, nous, la foule et toute la terre, nous serons réduits en morceaux. Pourras-tu reconnaître les bons et les mauvais ?»«
À la seconde où nous parlons, la ligne de fond de nos valeurs morales existe encore. Le groupe Halo m'appartient. Cette navette est la propriété de ma compagnie, dont tu n'es qu'une employée. » Cette décision relève de mon autorité.
A.A. fixa longuement Chung-Sin, puis elle hocha la tête et ferma l'interface.
Après quoi, elle éteignit toutes les fenêtres, coupant la cabine de la folie qui s'emparait du monde à l'extérieur.
Merci, dit Chung-Sin.
A.A. n'ajouta rien de plus. Soudain, elle sauta sur ses pieds comme si une idée venait de lui traverser l'esprit. Elle se saisit du fusil laser posé sur une rangée vide derrière elle et descendit l'échelle en lançant.
« Gardez vos ceintures attachées, la navette risque de tomber à tout moment. »«
Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Chung-Sin.
« Si nous ne pouvons pas partir, ces salauds ne partiront pas non plus !» cria A.A. en agitant son fusil.
A.A. ouvrit la porte de la cabine et descendit les marches. Elle la referma aussitôt pour éviter que des intrus ne tentent de s'y introduire. Puis elle descendit jusqu'à la surface par l'échelle. Elle leva son arme et fit feu sur l'empennage d'une navette qui venait de décoller. Une fumée bleuâtre se dégagea du point d'impact, un trou de la largeur d'un doigt. Il n'en fallait pas plus. Le système de surveillance de la navette détecterait un défaut à l'empennage, et le système d'intelligence artificielle refuserait d'achever la manœuvre de lancement. Les humains à l'intérieur de l'appareil ne pourraient pas passer outre le blocage du système. Comme A.A. l'avait prévu, l'anneau de dissipation thermique s'assombrit, ce qui indiquait l'arrêt du réacteur. A.A. se retourna et tira une série de salves, perçant des trous similaires dans 8 navettes sur le point de décoller. Au milieu des vagues bouillonnantes de chaleur, de poussière et de fumée, nul dans la foule en furie ne remarqua ce qu'elle était en train de faire. La porte de l'une des navettes où l'anneau de dissipation thermique s'était éteint s'ouvrit, et il en sortit une femme richement vêtue qui se mit à inspecter la navette. Elle repéra très vite le petit trou dans l'empennage et se mit à pleurer hystériquement, puis elle se roula par terre et se frappa la tête contre le train d'atterrissage. Personne ne fit attention à elle. Les gens ne virent que la porte de la cabine qu'elle avait oublié de fermer et se ruèrent au péril de leur vie vers cette navette spatiale pourtant incapable de décoller, se pressant pour s'engouffrer à l'intérieur. A.A. remonta à l'échelle, poussa Chung-Sin qui avait sorti la tête de la cabine à l'intérieur et la suivit dans l'habitacle. Elle verrouilla la navette et se mit à vomir.
« Dehors, ça sent !»
« La chair grillée !»
parvint à balbutier A.A.
« Nous allons mourir ?»
demanda une des deux filles en levant la tête depuis sa rangée.
« Nous allons assister à un grandiose spectacle cosmique !»
répondit A.A. avec une expression de mystère sur le visage.
« Quel genre de spectacle ?»«
Il n'y en aura jamais de plus beau. Le soleil va se transformer en immense feu d'artifice. »
« Et après ?»
« Et après ? Rien. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir après, hein ?»
A.A. s'avança et tapota tour à tour la tête des enfants. Elle n'avait pas le cœur de leur mentir. Ils avaient su répondre à ces questions et ils ne manquaient pas d'intelligence pour comprendre ce qui arriverait bientôt. Quand Chung-Sin et A.A. furent assises et attachées, Chung-Sin posa une main sur celle d'A.A. en murmurant
« A.A. » Pardonne-moi.
A.A. lui sourit. Chung-Sin connaissait bien ce sourire. À ses yeux, A.A. n'avait jamais cessé d'être une gamine, mais une gamine à forte tête. À côté d'elle, Chung-Sin se sentait à la fois faible et mature.
Tu ne dois pas t'en vouloir. De toute façon, on s'agite pour pas grand-chose. Le résultat final sera le même. Autant s'épargner cette angoisse,
soupira A.A.
Si le Halo était réellement un vaisseau interstellaire, il pourrait atteindre Jupiter plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Mais la distance entre la Terre et Jupiter ne serait peut-être pas suffisante pour lui permettre une accélération maximale, et le voyage prendrait tout de même 2 bonnes semaines. A.A. sembla lire dans les pensées de Chung Sin. Même si le dispositif d'alerte du système solaire est déjà entièrement achevé, l'alarme en tant que telle n'est opérationnelle que depuis seulement un jour. Maintenant que j'y pense à tête reposée, j'ai l'impression que c'est une fausse alerte. Chung Sin ignorait si c'était ou non pour cette raison que A.A. lui avait obéi aussi facilement. Les paroles d'A.A. obtinrent rapidement confirmation. Chung Sin reçut un appel du membre du CRD qui était aussi fonctionnaire du Conseil de défense planétaire. Il lui expliqua que les flottes internationales et les Nations unies avaient fait un communiqué, indiquant que l'alarme avait été déclenchée par erreur. Aucun indice d'une attaque de la forêt sombre n'avait été détecté. A.A. balaya du regard quelques fenêtres d'information qui retransmettaient presque toute l'annonce. Elle jeta un œil à l'extérieur. Les décollages intempestifs dans la zone de stationnement avaient cessé, et si le chaos régnait encore tout autour, il n'empirait plus. Quand le climat de panique commença à s'apaiser, Chung Sin et A.A. sortirent de la navette spatiale et eurent l'impression de faire face à un champ de bataille. Le sol était jonché de corps couleur de charbon, dont certains brûlaient encore. Plusieurs navettes s'étaient effondrées tandis que d'autres tenaient en équilibre l'une contre l'autre. 9 appareils s'étaient envolés illégalement depuis la zone de stationnement. Leur sillage était encore parfaitement visible dans le ciel comme des cicatrices ouvertes. La folie qui avait envahi la foule était retombée. Certains étaient assis sur le sol encore chaud, d'autres étaient figés debout, abasourdis, d'autres encore déambulaient sans but. Aucun d'entre eux ne semblait savoir si la scène autour d'eux était bien réelle ou le fruit de leur cauchemar. Les forces de police étaient arrivées pour rétablir l'ordre et les secouristes avaient commencé leur travail. « La prochaine alarme sera peut-être bien réelle », glissa A.A. à Chung Sin. « Nous devrions aller ensemble sur Jupiter. Le groupe est en train de construire une cité spatiale dans le cadre du projet Bunker. » Chung Sin ne répondit rien et demanda à A.A. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le Halo ?»«
Ce n'est pas le Halo d'origine. » C'est un vaisseau interstellaire miniature qui a été achevé récemment. Il a une capacité de 20 places pour un vol interplanétaire et de 5 pour un vol interstellaire. Le directoire a donné son accord pour qu'il soit construit pour toi. Cela pourra devenir ton bureau sur Jupiter.
La différence entre les vaisseaux interplanétaires et interstellaires était semblable à celle qui distingue une barque d'un paquebot. Bien entendu, cette différence ne s'exprimait pas en termes de volume. Il existait des vaisseaux interstellaires de très petite taille, mais de qualité de système de propulsion. Au contraire des vaisseaux interplanétaires, les vaisseaux interstellaires étaient équipés d'écosystèmes autorégénératifs, et chacun de leurs sous-systèmes comportait 3 ou 4 unités de secours. Si Chung Sin occupait réellement le Halo dans l'ombre de Jupiter, le vaisseau garantirait sa survie, quoi qu'il advienne. Chung Sin secoua la tête.
Va sur Jupiter et prends le Halo. Je ne veux participer à aucune activité du groupe. Je serai très bien sur Terre.
Tu veux juste ne pas devenir l'une des rares survivantes.
Je veux être ici, aux côtés des milliards d'autres êtres humains. Si ce qui m'arrive arrive en même temps à des milliards d'autres, il n'y aura rien d'effrayant.
« Je me fais du souci pour toi, » dit avec sollicitude A.A. en lui attrapant les épaules. « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que tu meurs en même temps que des milliards d'autres, mais que tu vives des expériences pires que la mort. Je les ai déjà vécues.
Et cela continuera si tu insistes à vouloir poursuivre ton rêve de vaisseau luminique.
Mais pourras-tu encore le supporter ?»
Cette fausse alerte avait été l'incident ayant entraîné la plus grande panique depuis la grande migration.
Si elle n'avait duré que peu de temps, et si ses dégâts avaient somme toute été limités, elle se grava profondément dans la psyché collective. La majorité du millier de spatioports du monde entier avait eu leur lot de décollages non autorisés en plein milieu de la foule, et c'était plus de 10 000 personnes qui étaient décédées dans les flammes de moteurs à fusion nucléaire. Des affrontements avaient également éclaté dans les terminaux des ascenseurs spatiaux, à la différence près que ceux-ci avaient mis aux prises non des individus, mais des armées nationales. Certains pays avaient en effet tenté d'envoyer des troupes pour prendre le contrôle de la station internationale située dans les eaux équatoriales du Pacifique, et ça n'avait été que grâce à la levée à temps de l'alerte que ces escarmouches n'avaient pas dégénéré en guerre. Dans l'espace, en orbite terrestre et même sur Mars, on avait aussi relevé de nombreux incidents de vol et de détournement de vaisseaux. Outre les criminels qui s'étaient enfuis en provoquant sans le moindre scrupule la mort de certains de leurs congénères, l'incident avait aussi mis en lumière un phénomène particulièrement terrifiant aux yeux des populations. On avait découvert qu'en orbite géosynchrone et sur la face cachée de la Lune se trouvaient des chantiers secrets de vaisseaux interstellaires miniatures et de vaisseaux quasi-stellaires. Les vaisseaux quasi-stellaires désignaient les appareils équipés d'écosystèmes autorégénératifs, mais dont les systèmes de propulsion n'étaient pas aussi performants que ceux des vaisseaux interstellaires. Ces précieux engins appartenaient pour la plupart à de grandes entreprises ou à de très riches individus. Tous de taille modeste, ils ne possédaient qu'une faible capacité d'occupation, une fois activés dans un mode de fonctionnement permettant la survie des passagers grâce au seul écosystème autorégénératif. Ils n'avaient qu'un seul but, garantir à ceux-ci de pouvoir se réfugier pendant une longue durée derrière une géante gazeuse. Le dispositif d'alerte du système solaire, qui n'était pas encore pleinement opérationnel, ne pouvait détecter que les attaques imminentes, dont l'impact était estimé à moins de 24 heures. Si une attaque de la forêt sombre venait vraiment à se produire, aucun vaisseau n'aurait le temps de transporter ses passagers depuis la Terre vers Jupiter, l'abri le plus proche. En réalité, la Terre était suspendue au-dessus d'un océan de mort. Beaucoup l'avaient compris depuis longtemps, et c'est pourquoi les conflits et les tentatives de fuite qui avaient eu lieu durant la fausse alarme n'étaient rien d'autre que le résultat d'une folie collective, mue par un instinct de survie balayant toute autre chose, mais sans aucun fondement rationnel. 50 000 humains vivaient actuellement en orbite de Jupiter, dont une grande partie appartenait aux flottes spatiales en garnison sur les bases joviennes. Le reste était composé d'ouvriers envoyés préparer le chantier du projet Bunker. Ils y vivaient de façon légitime et le grand public n'avait rien à redire à leur présence dans cet endroit. Mais dès que ces vaisseaux interstellaires construits en cachette seraient achevés, leurs riches propriétaires se rendraient à leur tour en orbite jovienne. D'un point de vue juridique, du moins pour l'heure, aucune loi nationale ou internationale n'interdisait à des compagnies ou des individus de construire des vaisseaux interstellaires. Se réfugier sur la face cachée de Jupiter n'était pas non plus considéré comme un acte évasionniste. Mais avec la révélation de l'existence de ces vaisseaux, éclatait au grand jour l'inégalité la plus terrible de l'histoire humaine. L'inégalité devant la mort. Historiquement, l'inégalité au sein des sociétés humaines se manifestait la plupart du temps dans les domaines économiques et sociaux. Les êtres étaient globalement égaux devant la mort. Bien entendu, l'inégalité devant la mort avait toujours existé, du moins en partie. Les inégalités d'accès à des soins de santé de qualité, par exemple. Ou bien le fait que les riches survivent mieux aux catastrophes naturelles que les moins fortunés. Ou encore le taux de survie différent entre civils et militaires en période de guerre. Mais jamais jusqu'ici, on ne s'était confronté à la situation suivante. Un groupe d'individus ne comptant même pas pour un 10 000 de la population globale serait en mesure de se réfugier en lieu sûr, tandis que quelques milliards d'autres attendraient sur Terre pour mourir. Même dans les temps anciens, une telle inégalité aurait été intolérable, et elle l'était naturellement encore plus à l'époque moderne. L'incident déclencha une remise en cause internationale du projet Vaisseau Luminique.
Les habitants des vaisseaux réfugiés derrière Jupiter ou Uranus pourraient peut-être survivre à une attaque de la forêt sombre, mais leur vie n'aurait rien de très enviable. Car malgré le confort que pourraient assurer les écosystèmes autorégénératifs, ils vivraient quand même dans le système solaire externe glacial, séparé du monde des hommes. Cependant, l'observation de la deuxième flotte de Trisolaris avait révélé que ces vaisseaux utilisant la propulsion par courbure n'avaient besoin d'aucun intervalle de temps pour passer à la vitesse de la lumière. Un vaisseau luminique pourrait relier la Terre et Jupiter en quelques dizaines de minutes seulement. Le dispositif d'alerte du système solaire ne pourrait réagir à temps. Les privilégiés qui posséderaient un vaisseau luminique pourraient ainsi couler des jours tranquilles sur Terre, puis, au moment de l'attaque, abandonner aussitôt les milliards d'hommes restants et s'envoler à toute vitesse vers l'espace lointain. Cette perspective était insupportable aux yeux de la société. Les scènes d'horreur ayant eu lieu lors de la fausse alerte étaient encore dans la mémoire de tous, et la grande majorité considérait que l'apparition de vaisseaux luminiques soulèverait de grands troubles à l'échelle mondiale. Le projet dut donc faire face à une résistance sans précédent. Dans cette époque sensible et hyper informée, la nouvelle de la fausse alarme s'était propagée en un éclair. Elle avait été déclenchée en raison d'une anomalie détectée par le système de surveillance du dispositif d'alerte. Mais cette anomalie n'avait rien à voir avec une particule de lumière.